Monstre parisien, la baronne de Trèfle. Ceci est une raison funèbre, car elle est morte, la pauvre baronne, en quelques râles, le crâne ouvert sur le pavé de la rue, avec du sang et de la cervelle parmi l'or des cheveux, morte comme cette exquise et abjecte comtesse de la Motte qui se jeta par la fenêtre à Londres un soir qu'elle était ivre. La baronne n'était pas ivre. Pourquoi donc ce suicide? On a dit accès de folie. Folie, oui, accès, non. Folie sans accalmie, pas d'accès ou toujours l'accès. Depuis 5 ans, c'est une longue histoire qu'il faut dire très rapidement parce qu'elle est horrible. Mais la tombe de la baronne est charmante au Père Lachaise, avec ses touffes de myosotis qui seront fanées demain et ses bouquets de violettes de Parme toutes fraîches, encore, d'une rosée qui fait croire à des larmes. Elle mit un louis sur le 14 en plein. C'était à Monte-Carlo au commencement des choses. Elle faisait son voyage de noces. Le baron était parfait, riche, élégant, ni trop beau, ni trop laid, ni trop vieux, ni trop jeune, aimable assez pour être supporté, pas assez pour donner le goût d'en aimer d'autres. D'ailleurs, est-ce qu'elle songerait jamais à aimer quelqu'un, cette petite femme, presque pas femme, cette jolie chose parlante, toute soie et poudre de riz, de la peau peut-être sous l'étoffe et le fard, mais pas de cœur certainement sous la peau. Si Ève avait été pareille à ces mignonnes et vaines créatures, ce serait Thomas Holden qui serait Jéhovah. Est-ce que vraiment elles ont été engendrées et enfantées? Le moins possible. Un hasard de flirtation extrême dans le boudoir, tendre et sombre, où les lampes ne sont pas encore allumées. Et non le fort et sain embrassement de couches conjugales. Puis entre deux balles, quelques semaines de repos sur la chaise longue dans les dentelles pâles du peignoir. C'est à peine si on les a entrevues bébés, car la nursery se dérobe dans les lointains de l'hôtel ou de l'appartement, et 16 ans plus tard, on les retrouve poupées. Qui veut se les offrir en manière d'étrenne? Le baron avait lieu d'être satisfait de son emplette. Tout à fait gracieuse à montrer. Et il n'avait rien à craindre pour l'honneur de son nom. L'adorable automate, ça veut dire beaucoup de mots très drôles, mais on ne lui avait pas mis dans le corps le soufflet qui soupire « Je vous aime ». Ainsi, le meilleur des ménages, avec les courtoisies convenues et toujours le baiser sur la main quand le mari arrivait ou s'en allait. C'est bon pour toi qui baisses ta Martine à bouche ouverte de la battre à poing fermé, ce ganarelle. Tu n'entends rien aux délicatesses des unions mondaines. Aucun événement brutal n'aurait interrompu la félicité des nouveaux époux, faite d'un tas de petites misères évitées, si la baronne n'avait pas mis un louis sur le 14 en plein. Elle gagna, joua encore, gagna encore. Alors, tout à coup, elle eut le regard fixe, acharné sur les billets et sur l'or, et ses doigts se crispèrent, enfonçant dans la chair les grêles ongles roses. Vous avez vu un chat d'un seul bond agripper un moineau, et c'est ainsi que le jeu la saisit. Elle avait un petit râle dans la gorge, comme un étranglement délicieux. Dès lors, elle joua toujours, 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 et partout. La roulette à Monte-Carlo, le baccarat à Paris. Un besoin éperdu d'entendre la bille d'ivoire virer, siffler, hésiter entre le repoussement des cases, se fixer dans un bruit sec ou devoir se retourner la carte qui précise la toute-puissance du sort. Sa dot, qui lui appartenait, elle l'émietta, la déchiqueta furieusement sur les tapis verts avec l'emportement d'une femme trompée qui déchire des lettres d'amour. En veux-tu, en voilà. Le jeu en voulait bien. Elle donna des dîners pour qu'on joue après. Elle donna des bals pour qu'on joue pendant. Et la dot évanouie, elle dit au baron, « De l'argent ou j'emprunte ?» Il devina à quelles conditions elle emprunterait, donna l'argent et commença à craindre de se ruiner. Elle avait pour amis de vieilles femmes qui jouaient avec leurs valets de chambre le matin avant déjeuner sur la nappe. Elle venait les voir, se mettait à jouer les poches pleines, ne cessait de jouer que les poches vides. Oui, les poches. Elle avait depuis longtemps renoncé au portefeuille en peau de boa, au porte-monnaie en cuir de Russie. Les pièces empoignées à pleine main sous l'étoffe qui fait du bruit. C'était son horrible joie, quand elle perdait, de tâter et de remuer dans sa robe les sonnants espoirs de revanche. 1 demi-million, la plus belle moitié de la fortune de son mari, disparut en 2 ans. Alors vendez l'hôtel, il le vendit, de plus en plus inquiet. Alors, la furie de la passion, s'exaspérant comme un incendie sous la tempête, la baronne ne prit même plus de prétexte pour donner à jouer, plus de dîner, plus de bal, les cartes tout de suite. À peine 10 personnes dans le salon. « Apportez les tables, disait-elle. Une pensée unique, se refaire. » On l'appelait déjà la baronne de Trèfle. Toilette, flirtation, choses oubliées. On s'aperçut, habillée de la première robe venue, pas maquillée, qu'elle devenait laide. Elle avait toujours été l'adorable poupée, mais elle ne le cachait plus. Ah bien, elle ne s'inquiétait guère des couturiers ou des coiffeuses. Banco! Le soufflet qui lâchait ce mot-là, on ne l'avait pas omis dans le corps de l'automate. Le prix de l'hôtel était dissipé depuis longtemps. Pas 1 000 francs dans les tiroirs. La baronne se fâcha. Séparation, conseil judiciaire, que sais-je. Il avait besoin de ce qui lui restait, ce mari, pour acheter des bijoux et des fleurs à une figurante des fantaisies parisiennes. Le scandale n'émut pas la baronne. Séparée, bon, soit, plus libre. Elle s'installa, la diable, au 4e étage, mit en nourrice sa petite fille qu'on lui avait laissée, une enfant née en voyage entre Marseille et Nice l'hiver dernier, compta pour payer ses meubles sur la pension que le tribunal lui avait allouée, ne les paya pas, joua la pension, perdit, emprunta à des parents de province, perdit encore, ne cessa pas de jouer, devint résolument une misérable folle qui s'informe des tripots, connaît les roulettes défendues, fait des prodiges, déploie du génie pour trouver le matin l'argent qu'on lui volera le soir, et ne s'endort pas avant l'aube grise, ou plutôt ne s'endort jamais, tourne dans son lit, les yeux écarquillés, palpant de ses mains moites des gains imaginaires, ne songe même pas qu'elle a perdu les 40 sous réservés pour le déjeuner, et que, n'ayant pas le sou, elle a dit au cocher qui l'a ramené de venir se faire payer le lendemain. La semaine dernière, elle rentra chez elle en plein jour. 9 heures du matin. Oh, l'affreuse nuit! Chez le Hocadie Tripier, qui donne à jouer et à aimer. Une vieille chez qui viennent des jeunes. Elle en était descendue là, la baronne. Et jamais la chance ne l'avait poursuivie avec plus d'acharnement que cette nuit. Les derniers 5 louis, obtenus la veille en engageant une pendule saisie, Elle les avait perdus, franc par franc. Car elle jouait petit jeu, hélas, comme un ivrogne devant la bouteille presque vide ne boit plus qu'un petit coup. Pas une seule fois elle n'avait gagné. Elle avait les lèvres tout en sang de les avoir mordues. Puis, après la partie, éreintée, elle s'était couchée sur un canapé dans le salon. Les lits étaient occupés par des dames qui n'étaient pas seules. Maintenant, elle rentrait. Léocadie Tripier lui avait offert une tasse de café au lait avec du pain dedans. « Ça vous remettra !» Elle rentrait. Elle était venue à pied dans le vent froid, sous la pluie. « Madame, dit la femme de chambre, maigre, hargneuse, à qui l'on doit 6 mois de gage, l'huissier est là, on fait le récollement. C'est la vente aujourd'hui. Eux que l'on vende, seulement, voilà. Elle ne pourrait pas mettre les rideaux au monde-piété. Elle en aurait eu 80 francs au moins avec ça. On aurait pu se refaire. Ça, c'est vu. L'huissier et ses praticiens étaient dans le salon. Elle alla dans la chambre. Là, des cris d'enfant. La nourrice, jamais payée, avait rapporté la petite. Dans le jour sale du matin d'hiver, dans la chambre où il faisait froid, c'était lugubre, cette chétive créature vêtue de chiffon qui se tordait sur un fauteuil où on avait déployé un torchon de cuisine. Avec la baronne de trèfle, alors elle se regarda dans la glace, pendant que l'enfant geignait et que la voix de l'huissier disait un peu lointaine « Item, une jardinière de boules !» Il y avait longtemps qu'elle n'avait regardé avec attention son visage. Laide, oh oui, elle était laide. Des gonflements sous les yeux, des plaques rouges sur les joues, lèvres blêmes. Pas seulement la ressource d'aller chez la Tripier dans la journée, et pas d'argent du tout. Tout à l'heure, l'appartement vide, avec la petite qui crierait, voulant du lait ou de la soupe, la domestique se fâchant, insultante. Elle vit que la fenêtre était ouverte. Il venait un air frais. Un moineau qui pépillait sur le balcon s'envola. S'envoler aussi, elle pensa que ce serait doux d'être morte. À une fenêtre en face, il y avait derrière la vitre des fleurs. Elle se dit que son mari, heureux d'être tout à fait délivré d'elle, lui ferait un bel enterrement, ferait mettre des fleurs sur la tombe. Elle s'approcha de la fenêtre ouverte. L'enfant criait. L'huissier disait « Item, une table de boules ?» Elle s'approcha encore, se hissa, enjamba la barre du balcon et se laissa tomber. Le baron, ainsi qu'elle l'espérait, apportait des fleurs sur la jolie tombe. Seulement, comme il est réduit à de petites rentes et qu'il est un rentier prudent, la figurante des fantaisies parisiennes ce jour-là n'a pas eu de bouquet.